RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Le football show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois, mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot, Nicolas Villas.
Samy Poix avec Jonathan McCarty, avec vous également au 32-16 sur le hashtag RMC Live. On est encore ensemble pendant 2 heures, ensemble jusqu'à minuit, avant de retrouver Johan, supporter du Barça, qui nous a appelé pour parler du beau jeu au 32-16. On va aller faire un petit tour par Metz, retrouver Sébastien Ruffet. Quatrième journée de Ligue 2 entre le FC Metz et l'AC Ajaccio. On en est où, Seb?
Alors c'est l'heure de jeu ici à Saint-Symphorien, toujours 1-0 pour le FC Metz, mais l'AC Ajaccio qui pousse dans cette deuxième mi-temps et qui a eu deux superbes occasions, un centre de Kabit tout à l'heure pour une tête de Mendes qui était tout proche de tromper Alex Oukidja, et puis on a vu un autre centre très mal repoussé par la défense messine, et là c'est Boekan qui s'est retrouvé seul au point de penalty. On va pas dire que le but est grand ouvert parce qu'il y avait 8 mecs devant lui, mais il a complètement écrasé sa frappe, alors que les supporters ajacciens, qui sont 6 hein, quand même, eh bien avaient déjà vu ce but égalisateur. Mais pour l'instant, eh bien Metz tient bon. Metz joue en contre, hein, domination des ajacciens dans cette deuxième période, mais pour l'instant toujours 1-0 pour Metz à l'heure de jeu.
Merci Sébastien. Retrouvons Johan, supporter du Barça, qui était donc avec nous il y a quelques instants pour vous poser la question. Faut-il laisser du temps à la méthode Cardozo du côté du FC Nantes? Nantes qui a perdu lors de ses deux premiers matchs en deux journées, et Miguel Cardozo, alors qui se décrit comme étant un adepte du beau jeu, qui aime avoir la possession du ballon. Débat philosophique, Johan, donc.
Bah exactement, c'est là on part dans un débat philosophique. Après moi je voudrais rectifier ce qui a été dit. Si tu me dis que t'aimes bien l'Atlético de Madrid parce que les joueurs se battent,
il y en a pas mal qui sur le hashtag MC Live suite à ça d'ailleurs.
Si tu aimes bien l'Atlético parce que les joueurs se battent, je pense que tu aimes en fait
l'état
d'esprit. Non, c'est surtout ça que tu aimes bien.
Non, parce que là où tu trompes, Johan, c'est que tu essayes de définir. Bon. Non, là où tu te trompes fondamentalement, je vais te dire, c'est que quand on parle de beau football, la définition du beau football, c'est très large et c'est bien plus compliqué que de voir des redoublements de passes ou de l'attaque ou du feu d'artifice. Le football, c'est un objet culturel. Le football, les clubs de football représentent une ville, représentent un état d'esprit, représentent une histoire. Et quand tu vois l'Atlético de Madrid, qui est une équipe qui propose quelque chose, c'est-à-dire que l'Atlético de Madrid ne propose pas rien. L'Atlético de Madrid a un style. Avant tout, c'est ça dont on parle. Chaque équipe qui aura un style, attends, laisse-moi terminer, après tu me diras ce que t'en penses. Chaque équipe qui a un style, qui a de la personnalité, qui a un style de jeu qui en plus est en adéquation avec l'histoire et l'ADN du club, pour moi, c'est ça qui est beau dans le football. Parce que le football, c'est pas juste du spectacle, hein. Sinon, bah oui, on donne raison à Guy Debord et compagnie, on est dans la spectacularisation de la société, faut voir des feux d'artifice de partout. Mais ça, je me refuse à le croire. Je pense encore que le football est un bastion de résistance à certaines idées néfastes de la modernité. Et je pense que quand je vois l'Atlético Madrid jouer comme il joue, c'est-à-dire comme des guerriers, se mettre le cul par terre à chaque match, en proposant quelque chose avec beaucoup de personnalité et en étant un petit peu, en incarnant un petit peu, bah, cette image de l'Atlético Madrid qui est le club un petit peu des losers magnifiques, je suis désolé, pour moi, c'est beau.
Bah pas pour moi de jouer avec la peur, je trouve pas ça beau justement.
Mais il joue pas avec la peur.
Il joue en jouant pas au jeu surtout. Excuse-moi, oui, quand tu joues une grosse équipe et que tu te mets à 11 derrière, tu joues avec la peur. Quand l'équipe
mais
de
c'est
France
pas du tout ce qu'ils font.
À 10
c'est
derrière,
pas du tout ce qu'ils font, Johan.
Elle a peur.
Bien c'est sûr, pas du tout ce que l'Atlético Madrid fait, arrête.
Il faut attaquer pour moi. Quand t'as des grands joueurs, il faut proposer du spectacle, il faut proposer du jeu. Je veux bien que Nîmes, quand il joue contre le PSG, joue à 11 derrière. Je trouve ça tout à fait normal. Les joueurs en face sont beaucoup plus forts, donc je peux le comprendre. Mais si t'es l'Atlético qui joue contre Marseille ou contre, enfin je sais pas, je te donne un exemple comme ça, mais même si c'est,
ça ils vont rappeler des mauvais souvenirs.
Bah non, mais voilà. Ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, comme la France qui joue en contre contre le Danemark, c'est moche. C'est super moche.
Mais là, tu peux pas comparer ce qu'a proposé la France contre le Danemark, c'est-à-dire qu'il n'a rien proposé, c'est-à-dire une bouillie de football sans personnalité, avec ce que propose
le match contre le Danemark. C'est un match
très spécial.
La philosophie de jeu de la France aujourd'hui, c'est quoi? C'est exactement la même que celle de l'Atlético.
Pas du tout.
C'est des joueurs qui se battent à fond, qui sont très soudés derrière et qui essayent, voilà.
C'est pas du tout la même chose.
On vous mettra pas d'accord, en tout cas. Et c'est ça, justement, qui est beau. Merci, Johan, en tout cas, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
À bientôt, Johan.
Johan, tu as tort, mais je t'aime bien quand même. Salut.
Salut.
Johan, salut. Je te filerai son adresse, Johan.
Nicolas, tu sais, pour revenir à cette question là, l'équipe de France là, puisqu'il y avait ce débat à 18h, on a souvent reproché aux joueurs de l'équipe de France ou aux joueurs français de ne pas avoir la culture de la gagne, que tu apprenais ça à l'extérieur, à l'étranger, en Italie ou ceci, cela. Non, mais qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends quand tu arrives dans ces clubs-là, on te dit, quoi qu'il arrive, c'est d'abord la victoire qui compte. Le beau jeu, si il y a le beau jeu, tant mieux. Mais s'il n'y a pas le beau jeu, c'est la victoire qui compte. Moi, je suis désolé parce que quand tu arrives en Italie, quand tu fais des heures de placement tactique, sans ballon, et que tout doit être plus ou moins coordonné. Moi, je peux te dire que au début, c'est certainement un peu agaçant parce que quand tu quittes les entraînements en France, c'est pas ça. Tu fais pas deux heures d'entraînement tactique sans ballon. Mais après,
je vais donner un autre contre-exemple. Un gars comme Mourinho, pour qui l'entraînement ne peut se concevoir sans le ballon, il a aussi la volonté de la gagne. Voilà. Alors dans son jeu.
Je te parle de mon époque, ça a certainement changé. Hein, maintenant, les entraîneurs de maintenant font pratiquement tout avec ballon. Et ça a l'honneur, parce que c'est quand même.
Vas-y, après on enchaîne. Sur l'équipe de France, pour moi, l'équipe de France, c'est ce qu'elle a fait pendant la Coupe du Monde, c'était beau. Parce que c'est pas la foire à la citation, mais on pourrait citer Baudelaire et sa définition du beau. Qu'est-ce que c'est le beau dans la conception de Charles Baudelaire? C'est un élément concret qui se mélange à quelque chose d'impalpable. Qu'est-ce que c'est l'élément concret dans l'équipe de France? C'est que l'équipe de France a montré beaucoup de personnalité. C'est-à-dire, l'équipe de France, que ça plaise ou pas, mais l'équipe de France a eu un style. C'est-à-dire que l'équipe de France a joué en contre en jouant très vite devant et en allant très vite dans les phases de transition. L'équipe de France a été cohérente tout au long du tournoi. Et surtout, l'équipe de France, c'est l'élément impalpable. Qu'est-ce que c'est? C'est que je pense que cette équipe de France, et là, on va dépasser un peu le cas du football, mais elle était une équipe de résistance, de lutteur, qui correspond totalement à l'état d'esprit qu'a la génération de cette équipe de France-là, qui a connu des choses quand même tragiques ces dernières années.
Tu vois, Nicolas, en plus, on peut comprendre qu'on aime ce football-là. Tu parles de l'Atlético. Pourquoi? Parce que, faut pas oublier une chose. Le football est un sport populaire qui vient des quartiers, qui vient de la rue. Et dans la rue, on apprend à se battre.
Ah, non, c'est là où vous voyez. Ah, non,
Mais
c'est pour ça que tu vois que je te dis que quand tu parles des valeurs et de l'ADN et des références historiques qui peuvent exister, c'est qu'il y a certains endroits, il y a des clubs qui ont été créés par des patronages qui sont catholiques, d'autres par des gens de la rue, d'autres par des immigrés, d'autres par. Enfin, je veux dire, il y a une telle diversité.
Mais le football, c'est plus des nobles qui jouent ou les gens de la rue qui jouent?
À la base, c'est ça. À la base, c'est ça.
Aujourd'hui, à la base, regarde, le meilleur exemple, c'est Boca et River. Dans la concept, dans l'imaginaire collectif, River Plate, c'est le club
des riches,
des bourgeois du quartier de la Nunez, et qui a toujours développé une sorte de jeu un petit peu saillant, très beau à voir, très fluide, très agréable. Et Boca, c'est le club des immigrés, un peu dans le combat.
À Neuilly, j'ai jamais vu les petits jouer dans la rue au ballon. Je les vois plus jouer dans le 93 dans la rue au ballon. Ah bah oui.
Ah mais parce qu'ils jouent dans le salon, ils vivent dans des 500 mètres carrés, les mecs. Ils sont des urbains, ils jouent dans leur chambre. T'es fou quoi toi?
Tu sais quoi? À Saint-Germain-des-Prés, il y a des gamins qui jouent au foot de partout. Ça veut rien dire.
Ouais mais ça c'est quand tu sors de chez ton pote là qui vend des bouteilles là. Là,
non, tu la vois maison du whisky là. De Jean-Marc.
À consommer
dans
avec modération.
Arrondissement et Saint-Germain-des-Prés dans le 6e.
C'est bon, t'en as une gratos. À consommer avec modération. Messieurs, le PSG est tranquille en ce début de saison. Un nouveau trophée des champions, 2 succès en championnat. Alors, pas mal de cadres étaient absents d'ailleurs en ce début de saison. Ça a été le cas le week-end dernier. Tourelle a beaucoup misé sur les jeunes. On vous pose cette question. Autre question de l'after. Finalement, est-ce que Tourelle a besoin de recruter ou les joueurs et les jeunes actuels suffisent-ils à ce Paris Saint-Germain? On vous a aussi posé la question sur le compte Twitter de l'after. Le PSG a-t-il besoin de recruter, messieurs?
Alors moi dès le début, j'ai toujours dit j'aime ces entraîneurs là qui font jouer les jeunes, qui veulent faire
progresser. On va voir d'ailleurs a préparé d'ailleurs le 11 du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, les joueurs qui ont joué le plus de minutes. Regardez, il y a Weah, Rabiot, Berned, Nkunku, Nsoki et Dagba. Voilà, ils font partie, on va dire, du 11 type de ce début de saison du Paris Saint-Germain.
Pour moi déjà, Nkunku devait être déjà un joueur pour moi qui pourrait déjà être titulaire dans cette équipe parisienne. C'est un garçon qui a déjà montré de très très bonne chose à chaque fois qu'il a apparu dans le 11 parisien ou quand il est rentré. Pour moi, il fait partie de ces joueurs-là qui doivent vraiment faire partie entièrement de la rotation, quoi. Moi, pour moi, c'est...
Un coucou, ouais.
Ah ouais, un coucou, pour moi, franchement. Ah bah oui, pour moi il déteint pas, que ce soit lui ou un Di Maria, ou je trouve qu'il apporte tout autant.
Mais tout est une question, encore une fois, une question de perception. Quel est l'objectif du Paris Saint-Germain?
On les connaît.
D'atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Oui, c'est donc, ça. Et donc je pense qu'en fait le 11 du Paris Saint-Germain sera très compétitif, mais que sur le banc, ça manque de joueurs de qualité.
Mais à quel poste alors?
Alors je pense principalement, on a tendance à trop souvent l'oublier, mais je pense qu'il faut absolument une doublure à Edinson Cavani, même si Mbappé peut faire le taf.
Donc ça veut dire qu'Ouéa c'est trop léger.
Moi je pense que Ouéa c'est trop léger si tu veux aller loin en Ligue des Champions. S'il arrivera pas à Edinson Cavani, comment tu fais? Je prends souvent cet exemple-là, mais le Bayern quand il gagne la Ligue des Champions, le gagne avec trois avant-centres, avec Mario Gomez, avec Mandzukic et avec Pizarro. Il faut au moins une doublure à Cavani qui soit une doublure d'expérience. On a plusieurs fois parlé de profil, c'est-à-dire ces profils joueurs 32, 33 ans qui est peut-être un peu plus sur la fin, mais qui t'assure quand même un nombre de buts assez intéressant. On parlait de Chicharito, on parlait de Mario Gomez, ce genre de joueur là. Je pense qu'il faut impérativement un autre latéral gauche de très bon niveau. J'attends de voir ce que va faire Kurzawa, avec ce que Tourelle va faire avec Kurzawa, mais je pense qu'il
faut un autre latéral gauche. On parle de Rafael Guerrero en Allemagne aujourd'hui
Le Bernat aussi.
Oui, Bernat.
Bernat.
Ah Bernat, pardon, je croyais que tu parlais de Bernat.
Il y a Bernat aussi qui est ou Philippe Louis. Donc je pense qu'il s'active sur ce dossier-là, et je pense qu'en fait, pour synthétiser, c'est que le Paris Saint-Germain doit s'acheter un banc maintenant. Ces jeunes-là sont très intéressants. Nsoki, Dagba, c'est très bien. Mais à mon avis, dans les jeunes qui ont joué, seul Nkunku a le niveau pour intégrer la rotation. Si tant est que le Paris Saint-Germain a toujours pour objectif d'être dans le carré de la Ligue des Champions.
On va accueillir Samir, supporter parisien, qui vient répondre à cette question de l'after. Salut Samir.
Messieurs, bonsoir.
Comment
bonsoir,
va Samir? Où il est enjoué,
Samir? Ça va, mais Daniel n'est pas revenu, donc ça va pas.
Ah bah sympa, sympa pour les mecs qui sont là, Samir.
Chacun a ses petites préférences.
Vous m'avez fait une crise. Vous m'avez fait une crise parce que j'avais fait une dédicace. Vous étiez jaloux.
Ah. Il sera là dimanche, hein, Daniel. La rentrée de Daniel, c'est dimanche.
Dimanche, appelez-moi alors.
Marseille. Bah, bonne soirée alors, Samir.
Salut.
Alors, Samir, est-ce que le PSG a besoin de recruter, selon toi?
Pour en revenir à Paris, moi, la grosse erreur, après, je ne sais pas, je vais pas juger, c'est d'avoir mis 37 millions sur le petit Allemand. Après, je dis pas que c'est une erreur. Parce que je me souviens, Marquinhos, c'était 31 millions. Après, on a vu ce que ça donnait. Mais moi, avec cette somme-là, j'aurais plus investi sur un latéral gauche. Par exemple, Alaba du Bayern. À un moment donné, je sais que le Bayern était chaud pour le lâcher. Et je pense qu'avec une cinquantaine de millions d'euros, je pense qu'on aurait pu l'avoir. Et l'avantage d'Alaba, c'est qu'il peut jouer aussi en sentinelle, en récupérateur. Maintenant, le choix, il a été fait. Donc maintenant, pourquoi pas? Je sais qu'on doit prendre un milieu récupérateur, un latéral gauche. Alors pourquoi pas investir sur un bon latéral gauche?
C'est ce qui semble être le cas. Hein. Philippe Luis ou Bernat, c'est pas mal. Hein.
Philippe Luis, moi j'aime bien. J'ai vu le match aujourd'hui de l'Atlético.
Et Bernat, c'est pas mal aussi, hein, Samir.
Bernat, c'est bien. Le petit Suisse, là. Petit,
non, espagnol.
Qui peut jouer milieu gauche. Mais non, c'est un Suisse, non?
Non, c'est celui du Bayern.
Ah, celui du Bayern, d'accord, ok. Autant pour moi. Donc,
c'est Guardiola qui l'avait fait venir.
J'ai ma petite idée pour le milieu récupérateur, c'est faire monter d'un cran Marquinhos. Parce que moi, j'en ai marre des Thiago Motta qui prend le café tout lent. Moi, je veux un milieu récupérateur qui a de l'impact. Parce que les mecs qui peuvent faire des passes, qui peuvent couper les lignes, qui peuvent casser les lignes là, avec leurs passes, tout ça, on en a.
Et alors maintenant, Adrien Rabiot, t'en fais quoi, Samir?
Bah, Rabiot, c'est une tête à claque. Je vais te dire pourquoi. Parce que déjà, l'année dernière, il m'a rendu fou. Parce que 8e de finale, on a bien vu qu'on avait besoin, contre le Real, on avait bien vu qu'on avait besoin d'un milieu récupérateur. Moi, si je suis Rabiot, je suis né à Paris, j'ai fait toutes les équipes de jeunes à Paris, ma ville c'est Paris, j'ai qu'un club c'est Paris. Moi, je vais voir le coach, je vais dire, écoute, coach, je sais que j'aime pas jouer récupérateur, t'as pas de solution.
Mais apparemment, là, il est d'accord, là. Samir, là, il est d'accord.
Il est d'accord,
Attends, Samir, et là, t'en fais quoi?
Bah, la Sanadira, c'est une bonne doublure.
Adrien Rabiot.
Il a fait une bonne. Quand même, il a fait des bons petits matchs amicaux. Et le mec, quand il est arrivé l'année dernière, il était pas top physiquement. Et là, je pense que l'expérience, il a joué dans des grands clubs quand même. Il a joué au Real, il a joué à Chelsea, il a joué à Arsenal. Je vais pas citer Marseille, même si Jonathan, il serait content. Mais.
Tu peux le citer, Samir, allez. Fais
non, non, non.
Allez, Samir, allez. Sinon, on t'appelle plus jamais.
Sinon,
t'appelles pas, dis-moi là. C'est bien. Merci, mon pote.
Vas-y, tu m'as ma matière.
Je salue l'effort.
Non, mais donc, franchement, pour moi, je tente le latéral gauche. Et Marquinhos, il faudrait vraiment, vraiment l'essayer en 6. On a vu que l'année dernière, et même cette année au Trophée des Champions, il a fait des rentrées en récupérateur. Et le mec, il est rapide, ouais. Il est taclé, il a un beau jeu de tête.
Samir.
Oui.
Tout va dépendre, à mon avis, de si Tourelle va ou pas installer sa défense à 3. jouer en 3-4-3. Alors je pense qu'il l'a pas fait pour l'instant parce que voilà, il récupère petit à petit ses joueurs, les mondialistes, mais le sens de l'histoire c'est qu'il, enfin le sens de ce qu'on a vu en préparation, c'est que ça se joue en 3-4-3. Et si tu joues en 3-4-3, franchement, je pense que tu vas avoir besoin de Marquinhos derrière, il a le profil idéal pour jouer défense en centrale, axe droit avec Thiago Silva dans l'axe et Kimpembe axe gauche, et puis Rabiot fera le taf à merveille.
Non mais et surtout ouais, si c'était dans l'idée de Tourelle de faire éventuellement monter Marquinhos, il aurait fait lors des matchs de préparation, tu vois.
Excusez-moi. Très juste.
Et ça n'a pas été le cas.
Très juste.
Moi les gars, je suis d'accord avec vous, mais le problème c'est l'argent. Et pour en revenir à Rabiot, moi je le prends dans le vestiaire, je lui dis écoute, tu pars ou tu pars pas. Nous dis pas t'as envie de pas être bloqué ou je sais pas quoi. Le club il lui a tout donné. Elle, il est là depuis qu'il est petit. Il lui a tout donné. Là il va lui donner un salaire encore plus haut que Mbappé, plus haut que Cavani. Respecte un petit peu le club. Soit tu viens, tu restes, tu prends ton argent, t'es content, tu joues. Soit tu te bats, mais nous fais pas traîner jusqu'à la dernière minute qu'on soit en galère.
Ce qu'il faut, Samir, c'est que la solution s'arrange parce que Adrien Rabiot, même si on a bien lui taper dessus, c'est un joueur qui est rare.
Pas d'égal à son prix.
Ouais, mais il le sait visiblement. Merci Samir de nous avoir appelé en tout cas.
Bon, merci. Hein.
Bonne soirée Samir, à bientôt.
Salut, Samir. Et bravo pour le petit effort. Tu verras ce que ça fait que peut-être un jour d'être toujours qualifié en Coupe d'Europe au printemps.
Ouais, c'est ça. La question vous a été posée également sur le compte Twitter de l'After. Le PSG a-t-il besoin de recruter? Vous êtes 68% à répondre oui. Autre question de l'After qui concerne alors ce qui s'est passé ce week-end, notamment hier. Enfin, pas que hier d'ailleurs. Alors il y a pas mal de décisions arbitrales qui ont fait polémique ce week-end et qui concernent le VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage. Je sais jamais comment on dit d'ailleurs. L'assistant de vidéo à l'arbitrage comme ça.
On va dire comme ça.
Du coup, je sais jamais si on dit la VAR ou le VAR d'ailleurs. Bref. Alors lors de Caen Nice, de Guingamp Paris Saint-Germain, de Nîmes ou de Nîmes Marseille, il y a eu pas mal de décisions, plutôt de non-décisions d'ailleurs, et qui ont été prises par les arbitres de terrain. Moi la question qu'on a envie de poser, cette question de l'affaire, c'est est-ce que finalement le problème c'est le VAR? Est-ce que c'est pas l'arbitre finalement?
Alors sur le tirage de maillot de Valère Germain en première mi-temps du match de l'OM face à Nice, c'est le problème, c'est l'arbitre. Hein. De pas le voir, c'est quand même incroyable quoi. C'est sur un coup de pied arrêté, il est censé être bien placé et surveiller ce qu'il
fait. Non mais lui, qui le voit pas.
C'est dingue.
Mais les arbitres ou ceux qui regardent dans le camion. Et ils peuvent pas biper l'arbitre en lui disant attention, mais là on vient de voir quand même une petite faute. À toi, viens voir ton petit écran, viens faire ton jugement. Il y a rien qui se passe. Donc c'est le problème, comme tu le dis, Nico, c'est pas forcément effectivement, c'est pas la vidéo. C'est les hommes qui sont derrière la vidéo.
Une grosse bêtise, mais c'est à l'arbitre de les solliciter. C'est pas l'inverse.
Non, ils peuvent lui dire. Tu peux avoir. D'ailleurs, tu peux avoir. Et c'est arrivé d'ailleurs au cours de la Coupe du Monde. Il peut y avoir une décision arbitrale qui est prise par le VAR sans consultation de la part de l'arbitre de terrain. C'est-à-dire, il peut faire confiance, il peut demander de faire le petit signe là, le petit carré avec ses mains, avec ses doigts, et d'aller vérifier par lui-même, et il peut faire confiance également à l'arbitre qui est dans le quart, justement dans le quart.
Parce que regarde, même contre le Guingamp Paris Saint-Germain, quand il y a faute de, je sais pas, c'est Meunier, je sais pas qui fait l'obstruction sur, je sais plus le Guingampé là sur dans la surface de réparation, voilà, ils auraient les responsables là qui sont dans le camion, ils auraient pu aussi dire là il y a peut-être une petite obstruction, pourquoi pas ne pas voir éventuellement s'il y a faute.
C'est
tu
quand
vois
même, ouais.
C'est ça le problème. Le problème, c'est que aussi les arbitres, ils voudront pas peut-être se dire, mais attendez, ça sera difficile pour eux en tout cas de dire qu'ils ont fait une erreur ou de revenir sur l'erreur, quoi. Parce que quand ils marquent le but Guingamp sur le but refusé,
ouais.
C'est quand même aller voir la faute que soi-disant qui fait un croche-patte aux Parisiens. Bah, sincèrement, même la vidéo, ils n'étaient pas d'accord. C'est pour ça que ça a duré 5-6 minutes.
Hein. Lors de la première journée, on avait dressé un bilan positif, hein, d'ailleurs, du VAR. Et c'est vrai que là, ce week-end, c'est un peu l'inverse, finalement, hein, qui revient.
Ah, oui, et puis on va voir toute la saison. Je pense que des cas comme ça, on en aura. Hein, parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Italie, on a vu ce qui s'est passé dans les autres championnats. C'est pas l'assurance au risque. Hein,
C'est vrai qu'on en a souvent parlé, d'ailleurs, dans l'after. Mais c'est que c'est déjà un outil qui est utilisé dans pas mal de pays. Ça arrête pas les débats. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, et c'est vrai qu'on a souvent insisté là-dessus pour le dire également, mais c'est que de toute façon, la décision revient à l'arbitre. Hein.
Oui.
C'est pas la machine qui décide d'elle-même. Hein. Non, c'est comme bien tu disais tout à l'heure.
C'est un arbitre, c'est pas un juge, c'est une question d'interprétation. Donc c'est pour ça qu'on appelle les arbitres de football des arbitres. Mais là, moi encore, j'en reviens sur le match de l'OM, c'est pas la faute du VAR ou pas, c'est juste l'arbitre qui est nul, quoi, de pas le voir.
Non, mais l'arbitre, il peut ne pas le voir. C'est comme la main qui lors du la première journée
contre
Toulouse. Il avait pas vu non plus la main contre Toulouse.
Ouais.
Voilà, c'est la vidéo qui lui a permis de voir ça. Donc, il peut ne pas le voir.
C'était pas le même arbitre.
D'accord, c'était pas le même, mais il avait pas vu, c'était un arbitre qui avait pas vu pour répondre à ta question.
Je pense que le niveau de notre arbitrage est quand même assez déplorable et qu'on le voit de week-end en week-end.
Mais en tout cas, VAR ou pas VAR, on pensait que justement que c'était
l'enjeu.
en tout cas, on pensait que la vidéo allait atténuer un peu atténuer les frustrations. Mais on voit que peut-être que ça les grossit même.
Autre question de l'after, elle concerne Bordeaux. Deux défaites en deux journées aussi pour les Girondins de Bordeaux. Poyet qui est mis à pied, vous le savez. Jeudi, les Girondins affrontent la Gantoise en barrage de Ligue Europa. Dimanche, ils ont un match très important du coup également face à Monaco. Est-ce que cette semaine est déjà décisive pour Bordeaux selon vous?
Ah bah oui. Oui, ça va être, c'est décisive, je sais pas, mais super importante. Oui, il y a ce match contre la Gantoise qui va être beaucoup plus compliqué que les deux autres tours précédents. Le climat est délétère, on en a parlé longuement hier, mais c'est le feu à tous les étages du club. Là, t'as un calendrier qui va s'enchaîner avec Monaco et Rennes. Ça, c'est un calendrier qui est difficile. Non, c'est une semaine qui est ultra importante. Faut vite régler le problème de l'entraîneur.
Oui, ça, il faut régler. Et pour atténuer le feu, je crois qu'il faudrait vite entendre peut-être les nouveaux propriétaires ou ceux-là qui vont arriver, parce que je pense qu'il serait important qu'ils parlent, qu'ils disent un peu ce qu'il en est, pour pouvoir justement calmer un peu, rassurer un peu les supporters bordelais.
Je pense qu'il y a un truc que personne ne comprend, c'est que Poyet est pas content de sa direction. D'accord. Ouais. Poyet, pourquoi il est là? C'est parce que c'est les nouveaux investisseurs qui ont demandé à la direction de Bordelaise de mettre Poyet. Donc pourquoi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a pas attendu, tu vois, il a pas pris son mal en patience en se disant que ça allait changer bientôt. Moi, je pense que le problème, il est un peu plus compliqué que ça, qu'on veut bien le croire. Que Poyet, de toute manière, on n'est pas là pour dire qui a tort, qui a raison, mais il a largement sa part de tort. Et que maintenant, il faut vite passer à autre chose, vite mettre un autre entraîneur qui va limiter la casse, parce que ça va vite. Hein.
Attends, il a largement sa part de tort. Attends, Poyet, c'est un ancien footeux, c'est un entraîneur.
Et alors?
Oui, mais attends, c'est un entraîneur qui a quand même une certaine expérience.
Mais attends, laisse-moi
finir.
Le Titi, oui, c'est parce que. Ouais, mais alors.
Non, mais attends, il a énormément d'expérience. Il a quand même, peut-être que, il se dit qu'il est rentré dans un staff, dans un club où tout le monde fait du n'importe quoi, où il y a que peut-être à chaque étage il y a de l'incompétence. À mon avis, lui c'est un gros malin. Mais... laisse-moi juste finir. Puisque tu étais en train de dire que c'est lui que les Américains ont mis en place, allez savoir s'il a pas appelé les Américains en lui expliquant que bah écoutez, moi je vais peut-être faire cette sortie là parce que moi j'en peux plus de ce qui se passe, des gens avec qui je travaille. Peut-être qu'il s'est déjà arrangé avec les Ricains de côté.
C'est prémédité.
Hein. Parce que ce week-end on a vu des images lors de la reconnaissance terrain, il était déjà un peu en train de gesticuler de manière de dire mais vous allez voir
l'air
de
match, oui en Europa League,
en Europa League, tu voyais en train de dire
les gars, il y a quand même un facteur, une donnée que vous prenez pas en compte, mais c'est que cette semaine, elle est importante aussi. Alors, c'est que le match aller ok face à la Gantoise, mais s'il n'y a pas de Ligue Europa, ça peut changer beaucoup de choses aussi. Ne serait-ce que d'attirer d'ailleurs un entraîneur de renom, des joueurs aussi, les pépettes que ça peut rapporter, la valorisation que ça ramène aussi vis-à-vis des joueurs.
Oui. Ah ouais. Ouais, non, bien sûr. Après, pour en revenir à Poyet, on sait que il a sa part de tort. Quand il a sa part de tort, c'est qu'on sait que il a
sa part de tort, c'est comme dans tout divorce, mais
on sait que la cellule de recrutement lui a proposé une quarantaine de joueurs et qu'il refuse parce que lui veut faire venir les joueurs sur lesquels qui ont le même agent que lui. Il y a des choses qui sont pas nettes aussi, les torts sont largement partagés, et quand il nous dit en conférence de presse qu'il savait pas que Laborde partait et qu'il l'a appris ce matin 11h45, il ment parce qu'il savait très bien que Laborde partait. Nous-mêmes, on savait que Laborde partait la veille. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est quand même un peu flou.
Et puisque vous disiez d'ailleurs tous les deux, hein, Poyet, c'est vrai, il a un côté un peu loco lui aussi. Je vous invite à aller sur l'appli RMC Sport également et à visionner le sujet qui a été fait d'ailleurs sur Poyet et sur ses antécédents en tant qu'entraîneur. Voilà, c'est un joli petit sujet que vous avez peut-être vu d'ailleurs sur RMC Sport.
Ah oui.
On retourne du côté de Metz, retrouver Sébastien Ruffet. Il y a des buts entre Metz et Ajaccio, Seb.
Oh, il s'en passe des choses et vous arrivez au moment du troisième but messin. 3-1 pour Metz maintenant grâce à Ibrahim Agnan. Avant cela, eh bien, un penalty de Diallo. Son 7e but de la saison déjà en 4 journées. Justin Jambert avait réduit la marque après avoir bénéficié d'un petit contre un petit peu favorable. Il s'était retourné et paf, frappe du gauche dans la lunette. C'était imparable pour Okidja. Et là, eh bien sûr, sur ce contre, Ibrahim Agnan qui prend tout le monde de vitesse, qui résiste d'abord à l'épaule et puis plat du pied, efficacité, petit filet opposé pour venir tromper Benjamin Leroy à 7 minutes du terme. Metz reprend donc un avantage, on va dire, plus confortable. 3-1 pour les Messins.
Et Liverpool qui mène toujours 1-0 face à Crystal Palace. Dans quelques instants, Mélanie Ferreira sera avec nous pour le Mercato Show. Les drôles de dames se préparent, elles s'échauffent, elles seront avec nous également dans quelques instants. On sera en Italie, on sera en Angleterre et on sera en Espagne, bien entendu, avec Samy Poix et avec Jonathan Macardy. À tout de suite.
RMC, le football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
De Jonathan McCarty et de Samy Bois. Vous êtes nombreux ce soir sur le hashtag RMC Live dans cet after qui dure 3 heures. Ce sera le cas d'ailleurs dans les semaines qui viennent. Vous êtes vénards et on est très heureux d'être avec vous. Je vous donne quelques résultats tiens, de ce soir. Liverpool qui mène toujours 1-0 face à Crystal Palace. Le Valence qui a fait match nul un partout face à l'Atlético de Madrid. C'est quasiment fini entre l'Atalanta et Frosinone et 3-0 hein, pour l'Atalanta. Tiens, on va aller retrouver Sébastien Ruffet. On retourne du côté de Metz, on va se faire plaisir. Tiens Seb, ça joue entre Metz et Ajaccio, Sébastien.
J'aime bien quand tu passes de l'étranger à Metz en disant on va se faire plaisir. C'est bien, tu vois, parce que j'aime
bien les choses. C'est un match sympa, non, Seb?
C'est un match très sympa et ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est un bon match de Ligue 2, quoi. Un vrai match de haut de tableau, on va dire. Et cette équipe de Metz, là, avec ses 3 buts, encore, eh bien, elle reprend à nouveau la tête de ce championnat. Et je peux vous dire qu'ils vont faire du dégât dans cette Ligue 2 s'ils continuent, parce qu'avec le profil des attaquants qu'ils ont, entre Nguet, Diallo, Boulaya qui ont commencé, il y a Ibrahim Aniam qui était sur le banc, il y a Renaud Coat derrière la baguette, ils arriveront toujours à se procurer des occasions quoi qu'il arrive dans ce championnat. Et en plus derrière c'est quand même solide hein, avec un Stopila Sunzu qu'on avait découvert à Sochaux en Ligue 1 il y a quelques années, qui se retrouve dans cette défense messine maintenant. Et ben ouais, Metz ça va être un candidat plus que sérieux à la remontée immédiate hein, puisqu'ils étaient relégués de la Ligue 1 la saison dernière. Et ben va falloir compter clairement sur eux cette saison. Il reste 4 minutes à jouer et les Ajaxiens ont fait une bonne deuxième mi-temps hein, franchement ils ont fait douter ces Messins en revenant à 2-1, ils ont poussé et puis ce contre évidemment d'Ibrahim Adnan là qui les plante un peu et alors on sent qu'ils sont un petit peu résignés maintenant nos amis corses. Il reste 3 minutes 30 et donc Metz qui mène 3-1 face à Ajaccio.
Merci beaucoup. Mélanie Ferreira nous a rejoint. Bonsoir Mélanie.
Bonsoir messieurs.
Ça va?
Salut.
Très bien, merci.
Mélanie qui nous vient avec des infos mercato. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Il y a pas mal de départs en vue hein, du côté du PSG. Hein.
Exactement, à commencer par Giovanni Lo Celso qui songerait sérieusement à partir avec l'arrivée de Thomas Tuchel. L'Italien a vu son temps de jeu se réduire encore davantage et a priori le PSG ne le retiendrait pas s'il y avait une offre intéressante.
L'Argentin, tu veux dire.
Ouais. L'Argentin, pardon, excusez-moi.
Toi, ça te rend triste, je sens.
C'est bizarre. C'est bizarre parce que je l'aurais bien vu dans leur rotation.
Ah, il n'est pas parti encore, mais c'est ce qui se dit. Quoi.
Notamment au milieu de terrain, je pense qu'il aura sa chance. En Argentine, il a souvent joué dans un double pivot, en jouant devant la défense. Il a été très bon, d'ailleurs.
Mais t'as vu, tout à l'heure, on évoquait les milieux de terrain du Paris Saint-Germain. On n'a même pas pensé à Lo Celso.
Oui, mais parce que pour moi, c'est une évidence que c'est la paire des milieux de terrain titulaires, si ça se joue en 3-4-3, c'est Verratti-Rabiot et que Lo Celso est l'option prioritaire derrière ces deux-là.
De toute façon, depuis le début de la reprise, depuis que Touré est là, on voit qu'il n'y a pas énorme confiance en ce joueur. Il préfère les jeunes. Il préfère les jeunes.
Il est pas vieux, hein, Lo Celso.
Il préfère les jeunes du centre de formation de l'académie du PSG. Et alors que c'est un joueur vraiment très intéressant, c'est vraiment un bon joueur.
Plus tard, il était à la Coupe du Monde, il y a peut-être ça aussi. Moi, je pensais que c'était pour ça, mais ça me surprend.
Tiens, des news sur un autre joueur également. Alors lui, il a annoncé partant depuis un moment déjà. Et d'ailleurs, il n'était pas au PSG la saison dernière. Il était prêté à Valence. C'est Gonçalo Guedes. Hein.
Ouais, mais les négociations n'ont rien donné entre le Paris Saint-Germain et Valence. Et du coup, ça traîne en longueur. Le joueur portugais prêté au club espagnol la saison dernière, où il s'était bien relancé. Donc du côté de Valence, eh ben, on aimerait retenter l'expérience. Mais Paris se montre intransigeant. Et le président espagnol, Matteo Alemany, a fait une sortie fracassante aujourd'hui dans El País. En disant le prêt de Guedes est irréalisable, il nous demande un transfert, nous verrons ce qu'il se passe d'ici au 31 août. On parlait au début d'une somme autour de 40-45 millions d'euros et puis selon les derniers bruits venus d'Espagne, la somme de 70 millions d'euros serait désormais réclamée par le PSG qui estime qu'il n'y a pas d'urgence et qui donc souhaite effectuer la meilleure vente possible.
C'est assez tendu d'ailleurs en interne hein, entre Antero Henrique notamment et Gonçalo Guedes. C'est vrai que ce dossier il traîne aussi hein, quand même. Hein.
Ouais. Mais en plus, Valence s'est quand même bien renforcé dans le secteur offensif. Il y a Batshuayi, Gamero, d'autres recrues qui sont arrivés. Ils ont conservé Rodrigo. Moi, je pense que franchement, le joueur veut y aller. Je pense que il joue la montre, quoi. Paris veulent faire le plus d'argent possible dans le cadre du fair play financier. Valence, en recrutant, montre qu'ils n'ont pas forcément non plus besoin d'autres joueurs. Je pense que c'est un dossier qui va se dénouer dans les dernières heures du mercato. Mais je pense qu'il partira entre 40 et 50 millions, mais jamais à 70, quoi.
Et surtout, c'est vrai que l'année dernière, il avait fait vraiment, son prêt avait été bon. Il avait vraiment fait de bon, très très bon. Il avait vraiment été très très bon. Maintenant, il faut comprendre aussi le PSG. Parce que quand le PSG réclame un joueur, je suis persuadé, tout de suite, les chiffres montrent aussi.
C'est plus 1%.
Exactement. Voilà, le Paris a aussi droit de demander des chiffres selon le marché.
Après, Paris a aussi droit de miser sur lui. Hein.
Ah oui, c'est un bon joueur, hein, en tout cas.
Bah, vous trouvez pas, c'est pas dommage, peut-être que c'est mal, c'est pas sur lui.
Mais, il y a la concurrence, c'est rude, hein, quand même, hein, à son poste. Il y a quand même beaucoup de joueurs. Cavani, Mbappé, Neymar, Draxler qui peut jouer plus haut, Di Maria qui est pas parti. C'est vrai que, voilà.
Pourquoi Cavani, il rentre pas dans l'axe, lui, Guedes?
Non, mais je te parle
de ça. Il a joué déjà ce
poste. Il a joué dans, il a joué en pointe aussi, à Valence. C'est quelques matchs avec le Portugal, mais.
Et alors lui, on l'a presque oublié parce que lui aussi, il était prêté la saison dernière et il est en pleine galère. Il en a eu des pépins. Alors beaucoup d'ailleurs, certains drôles, d'autres beaucoup moins, c'est Ressé.
Ouais, RSC Rodriguez qui selon des médias espagnols irait au SD Huesca, un club promu en Liga pour la première fois de son histoire. Alors on ne sait pas encore s'il s'agit d'un prêt ou d'un transfert, mais c'est ce qui est annoncé. Et puis une autre info mercato, après avoir été bloqué depuis le début de l'été, Rémi Descamps devrait voir sa situation évoluer dans les prochaines heures selon nos informations. Le jeune gardien qui avait été prêté à Tours en fin de saison dernière devrait rejoindre Clermont, sauf retournement de situation.
Prêt ou transfert?
C'est un transfert, je pense.
Ouais, transfert.
Transfert définitif.
Ouais.
Et juste le cas Ressé quand même. Hein. On l'a complètement oublié. Alors tout à l'heure, c'est ça que je disais, il a eu pas mal de pépins. Alors il a eu un enfant qui est né prématurément, qui avait beaucoup de soucis de santé. Il s'est séparé de sa compagne. Il a très mal vécu ça. Il a joué une douzaine de matchs à Stoke City, qui a été relégué la saison dernière. Il a disparu du jour au lendemain. Ses dirigeants savaient pas où il était. Il vit vraiment là. Depuis qu'il a signé au PSG, rien ne lui sourit à ce garçon.
Ouais. Hein. Non, c'est clair.
Mais je pense qu'il aura du mal à se relever parce que bon, c'est vrai que la naissance de son enfant a dû fortement le perturber. Et je pense que c'est vrai qu'il avait bien commencé, hein, quand il avait été prêté en Angleterre. Et après, bon, bah, ça a commencé un peu à décliner. Mais je pense que sincèrement, il aura du mal à revenir au niveau qu'on l'a connu quand il était au Real Madrid.
Parce qu'il a déjà eu un très grand.
Ouais, moi, je suis comme toi. Moi, j'ai jamais été convaincu
par ce genre. Au début, quand il a commencé au Real Madrid, ouais. il faisait de bons trucs.
Mais attends, bof.
C'est-à-dire que actuellement. Là, c'est vraiment, il est au niveau plus bas, mais quand il a commencé.
Là, il a le mental qui va pas en plus du physique, tu vois.
Ça a jamais été un très bon joueur. Hein.
Ouais, c'était un bon joueur.
Bah, il a été meilleur que ce qu'on a vu récemment.
Voilà, c'est ça. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un des nouvelles de Ben Arfa aussi?
Bah, je sais pas
ce soir.
Il se reste de rêver dans le genre.
Bah, il est toujours libre, hein, il cherche.
Ça m'a fait penser.
Je sais qu'il a été proposé au Portugal, moi. Que ça s'est pas fait.
Où ça?
Dans un gros club.
Et
qui joue en vert et blanc. Mais
donc au Sporting.
Ça peut être Rio Ave. Ouais, ça peut être Rio Ave, mon pote.
Pourquoi ça s'est pas fait?
Ça s'est pas fait parce qu'ils ont préféré miser sur. Non, ils ont préféré miser sur d'autres joueurs aussi.
Ah, c'est pas cool.
Et lui, il avait
il
aussi.
Il a pas Raola, lui.
Non, lui, il n'y a pas eu de réel. Il a été proposé au club, voilà, ils ont réfléchi. Voilà, c'est pas forcément son agent à lui.
Ça aurait été bien pour lui, hein.
Ouais,
mais c'est quand même curieux, hein. Il attend quoi? Ils attendent quoi, enfin, son entourage? C'est quand même. C'est bizarre, hein, quand même.
Autre dossier du Paris Saint-Germain, on l'évoquait tiens tout à l'heure avec comment il s'appelait qui était avec nous, Samir, supporter du Paris Saint-Germain, le dossier du latéral gauche au Paris Saint-Germain, ça pourrait bouger là aussi.
Alors la piste Philippe Luis est toujours privilégiée, le joueur brésilien et le club ont trouvé un accord, mais l'Atlético demanderait entre 12 et 15 millions d'euros. Autre piste suivie, Philippe Max, le latéral gauche d'Augsburg, on dit que l'Allemand aurait... Pardon.
Laisse-la tranquille.
Augsbourg.
Ah non, on est là.
Non, il a raison de me corriger. Merci, non. Nicolas. Augsbourg.
Tu demandes à ça. Tu parles allemand, toi?
Ya.
Yeah. Ça, ya, chez le Durossi.
Augsbourg. Kartoffel
salade.
Ouais, je bin Deutsch chocolat.
Ich bin Deutsch.
Porsche. Excuse-moi. Mais...
Non, oui, voilà. Donc l'allemand aurait tapé dans l'œil de Thomas Tuchel. Et il y a aussi, on parle de Juan. Alors comment, Juan Bernat?
Oui, Bernat. Ouais.
Bah, il est espagnol, lui. Donc il va pas t'aider, hein, pour le coup, là, Sam.
Le joueur du Bayern Munich, selon la presse espagnole, un accord aurait même été trouvé entre le PSG et le club allemand. Même si les bruits circulent aussi que l'Atlético Madrid serait intéressé par Bernat s'il faut remplacer Philippe Luis. Voilà. Donc c'est un triangle
Bernat,
amoureux.
Bernat va aller à l'Atlético et Philippe Luis va finir au PSG et tout le monde sera content.
Avec Camoulox.
Voilà.
Tiens, on parlait du dossier de l'entraîneur du côté de Bordeaux. Alors Thierry Henry pourrait se rapprocher là des Girondins finalement.
C'est Arsène Wenger qui valide cette piste. Alors on sait que l'ancien attaquant français est la priorité des Girondins pour remplacer Gustavo Poyet. Arsène Wenger a déclaré dans la presse aujourd'hui que l'ancien champion du monde, entraîneur adjoint de l'équipe internationale belge pendant le mondial, serait prêt à commencer sa carrière d'entraîneur en France. Oui, il veut le faire, il est intelligent et en a les qualités. Voilà, c'est ce qu'a déclaré son ancien coach d'Arsenal.
Franchement, vous y croyez, vous? Franchement.
Non. Justement, il est intelligent et pour l'instant, c'est un bourbier, le projet est pas clair. Donc à moins qu'il ait des discussions très rassurantes avec les investisseurs, pourquoi pas, mais...
Ce serait excitant à mort.
Mais... C'est quand même curieux. Tout à l'heure, Joe, tu disais que Vieira, en gros, entre parenthèses, qui n'avait pas d'expérience. Donc là, un club comme Bordeaux pour Thierry Henry, qui n'a pas plus d'expérience que Vieira, tu le vois pas aller à Bordeaux.
Mais pourquoi tu dis que c'est curieux? En fait, ne cherche pas à contredire pour contredire. Ce que je te dis, c'est que Thierry Henry,
lui, il veut dire que c'est Henry qui irait.
Il a pas d'expérience, et je trouve que ça serait encore plus difficile de commencer dans un contexte si compliqué.
Ah ben non, mais il a tout à gagner. Il a tout à gagner puisqu'il est c'est un bourbier. Je veux dire, à partir de là, il a vraiment tout à gagner à aller là-bas. C'est-à-dire que, au pire, ça se passe mal, on dira, ben, écoutez, regardez l'effectif qu'on lui a donné. Le pauvre, il pourrait rien faire. Et si ça marche bien, il a
je
tout à gagner.
Je pense pas que ça soit dans sa personnalité d'accepter d'aller.
Oui, mais bon, il n'aura pas le Real Madrid non plus demain.
Puisqu'on est en plein mercato show, ça vient de tomber il y a 5 minutes là. Vous êtes très réactifs sur le hashtag RMC Live. Il y a l'OGC Nice, le compte Twitter officiel de l'OGC Nice, qui vient de poster un gif où on voit Mario Bros en train de sauter. On voit juste ça. Voilà, t'as Mario. Oh, oh. Voilà, il est comme ça. Et on voit ça.
Et tu... En train de sauter avec le poing en avant.
Ouais.
Ça signifie quoi ça?
Bah Mario Balotelli.
Oui, d'accord. Oui, mais bon.
C'est... Bah je sais pas. Justement, c'est un message subliminal.
Ça veut
le CF de 10, si tu nous écoutes,
ça veut dire
fais le 32-16, explique-nous. Bah, je sais pas. C'est bizarre quand même, non?
Il saute, c'est pas dans le vide. Il saute en l'air.
Non, il saute. Il est content. Il a des yeux sur la casquette. Il est comme ça.
Ça veut dire peut-être. Ah, c'est peut-être le Superman qu'ils attendent alors.
Non, c'est Mario.
C'est Mario Balotelli.
Mais je sais.
Ça peut dire qu'il reste alors du coup.
Ah bon?
Bah
c'est bizarre non comme tweet.
C'est bizarre, ouais.
C'est un message subliminal. Tiens, on va vous le mettre sur le. On va retweeter.
J'arrive pas à
le compte Twitter de l'After. Tiens, il y a des Belges, des internationaux belges qui sont attendus en Ligue 1 dans les prochaines heures, Mélanie.
Exactement. Il y a d'abord l'international belge Anthony Limbombé du club de Bruges, qui est très proche de signer au FC Nantes. Il est arrivé chez les Canaries hier et il devait passer sa visite médicale aujourd'hui. On parle d'un transfert aux alentours de 8 millions d'euros et il deviendrait donc le joueur le plus cher de l'histoire du FC Nantes. Et puis du côté de Lyon, on attend Jason Denayer, l'international belge de Manchester City. L'OL n'a jamais été aussi proche de tenir son défenseur central après l'échec essuyé dans le dossier Yerimina. Peut-être bientôt l'échec avec Ruben Dias. Jean-Michel Aulas avait déjà annoncé l'arrivée imminente de Denayer le week-end dernier. Donc on attend confirmation.
C'est peut-être pas encore totalement mort avec Ruben Dias, attention.
Qu'est-ce
que ça veut dire?
Non mais Denayer, ça fait des années qu'il se court après avec Lyon. L'année où Marcelo Bielsa entraîne l'OM le voulait parce qu'il était dans la fameuse shortlist de Bielsa. Lyon aussi le voulait, ça avait été une bataille entre les deux, finalement aucun des deux ne l'avait eu. Et c'est vrai que c'est un bon joueur, enfin du moins avec un très fort potentiel, mais sachant Tavolieri en parlerait sûrement mieux que moi, mais il a jamais vraiment confirmé les espoirs qu'on portait en lui, mais il est encore jeune.
Tiens, c'est terminé à Metz entre Metz et Ajaccio. Sébastien Ruffet affiche dernière affiche de la quatrième journée de Ligue 1.
Et Metz qui reprend la place de leader après cette victoire 3-1.
Mais tu peux rebondir sur
cette,
Metz.
Cette attaque destinée au Messine a 12 buts en 4 matchs. Le 7e pour Diallo qui met un doublé ce soir. But d'Ibrahim Magnan également côté Messin. Et la réduction du score c'était pour Ghislain Gimbert tout à l'heure. Voilà 3-1 pour Metz. 4 matchs, 4 victoires pour les Lorrains dans ce championnat de Ligue 2.
Merci Sébastien, rentre bien.
Merci.
Fais attention sur la route, t'es prudent.
Ouais, je fais gaffe en tout cas à ne pas lénifier les turpitudes. Ça, je le garde.
Ouais. C'est beau la langue française, hein.
C'est
ouais.
Magnifique.
Surtout dans ta bouche.
Alors.
Bah tiens, parce qu'on est à Metz, Mélanie, il y a un transfert du côté de Metz aujourd'hui également. Puisqu'on t'a attendu à l'antenne, t'as tout grillé.
Exactement, je suis désolée. Donc Adama Traoré, à ne pas confondre avec son homonyme de Middlesbrough. Voilà, Traoré qui arrive à Metz en provenance du Congo. L'attaquant malien de 23 ans évoluait au tout puissant Mazembe.
Ok. Tiens, on va rester en Angleterre, tiens, puisqu'on l'évoquait Borough il y a quelques instants. Ça pourrait bouger pour Loris Karius aussi.
Oui, Loris Karius peut-être au Besiktas, selon nos informations. Des négociations sont en cours pour un prêt de 2 ans avec option d'achat. Les deux clubs, a priori, sont confiants. Le joueur n'a pas encore signé. Mais voilà, les deux clubs ont trouvé un accord.
Et pour finir, alors une info avec laquelle on reviendra dans quelques instants avec Fred Hermel, puisque nos drôles de dames vont arriver dans quelques minutes maintenant. Le feuilleton Real Madrid-Inter Milan concernant Modric continue. Et c'est Luka Modric qui en parle d'ailleurs.
Ouais, il y a quelques jours, c'est le Real Madrid qui était décidé à dénoncer l'Inter Milan à la FIFA pour prise de contact illégale sans l'accord du club. Et Luka Modric, disons, vient à la rescousse de l'Inter Milan puisqu'il aurait expliqué à la FIFA que c'est lui qui a demandé à ses agents de négocier avec l'Inter Milan. Voilà, donc il coupe un peu l'herbe sous le pied des dirigeants madrilènes.
Merci beaucoup Mélanie. Merci
Mélanie.
Merci Mélanie.
Merci à vous.
Dans quelques instants, les drôles de dames seront là. On sera avec Julien Momon pour l'Angleterre. En attendant que Philippe Auclair revienne, vous le savez. On sera avec Fred Hermel en Espagne. On sera avec Simone Rovera en Italie, bien entendu. On vous attend sur le hashtag RMC Live au 3216, sur l'application Direct Studio également. Faut pas oublier, avec Samy Poix et Jonathan Macardy. À tout de suite.
RMC, le football show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Samuel Ipois et de Jonathan Macardy dans ce super after de 3 heures. Nos drôles de dames sont là ce soir. Fred Hermel est avec nous.
Eh ben non, il est pas là. Ça commence bien.
Hola chico.
Vas-y, fais-le toi.
Hola chico.
Tu es nul. J'en profite d'ailleurs pour ceux qui sont branchés sur RMC Sport News. Les nouveaux t-shirts de l'after sont arrivés. L'important c'est les 3 points, j'en ai mis un ce soir. Voilà, c'était pour cacher les marques. Il est là Fred Hermel?
Bah oui, il est là.
Bah voilà, il est là.
Non mais c'est pas pour dire, je voudrais pas la ramener. Mais il y a 4 t-shirts, il y en a 2 avec des phrases de Fred Hermel.
Et voilà, il est là, il a
pas changé.
Et bah voilà. Ça s'invente pas ça mon Fredo.
Tu prends des royalties là-dessus ou pas? Quel bonheur de retrouver l'after du lundi, le grand after.
Et c'est même le très grand after là pendant quelques semaines. Hein. C'est des afters de 3 heures.
Très gros là, tu truques pas.
Là c'est énorme.
Pas petit, ouais.
3. T'es pas tout seul mon Fredo. Simone Rovera est avec nous.
Ah, le melon d'Italie là.
Ciao, bonsoir. Ciao Fredo.
Ça va toi?
Oui, que Cristiano Ronaldo il est chez moi. qu'on a voulu vous piquer Modric.
Ah oui, il est à la maison.
Non, Modric, c'était un jeu sympa.
Ah tiens, démenti d'ailleurs, visiblement. Alors, Mélanie Ferreira a donné l'info il y a quelques instants. Ça a été démenti. Il a pas témoigné visiblement.
Bah, il a démenti sur un post Instagram en disant esto es comment en espagnol esto es más tontería de l'histoire.
Mais tu sais, il a parlé croate, serbo-croate, quoi, en disant « connerie plus grosse de l'histoire ». En gros, c'était ça, toi. Il l'a écrit, tu l'entendais son accent quand il écrivait, en disant « grosse connerie », il lui a jamais dit ça, quoi, voilà. Vous imaginez Modric
l'information sortait des Don Ballon, donc c'était ça. C'était pas Fred Hermel. Si c'était Fred Hermel, c'est sûr.
Don Ballon, c'était...
Don Ballon était une revue importante.
Exactement, c'était mythique. Ils ont déposé le bilan, ils ont été recréés, c'est ça?
Voilà, c'est un peu... S'il y a des gens qui, derrière Internet, utilisent ce nom-là...
C'est un peu Parme, quoi. Pas...
Voilà, c'est pas terrible, quoi.
Bah quoi, Parme, ils ont déposé le bilan, ils sont revenus, non?
Ou comme d'autres magazines français.
Comme quoi?
Non,
ne le dis pas. Ce soir, pour représenter l'Angleterre dignement, il l'incarne tous les week-ends sur RMC Sport. Julien Momon est avec nous.
Good evening.
Bonsoir
tout le monde. Mais attends, il faut. Attends, excuse-moi, Julien, mais il faut être estampillé drôle de dame pour pouvoir parler dans une langue étrangère.
J'endosse difficilement le costume de Philippe Auclair, voilà, pour ce soir.
Il veut sortir son t-shirt.
Dieu sait qu'il met des beaux costumes. Hein, exactement. Hein. Et il est toujours très élégant.
Il veut sortir son t-shirt aussi, peut-être. Julien.
Oui, il est très bien mon t-shirt.
Si tu vas avoir une phrase sur un t-shirt, si tu fais une phrase sur un t-shirt, il faut aller un petit peu plus loin que good evening. Hein.
Voilà comment il s'en est, souhaite la bienvenue.
Il paraît qu'il a très très bien commenté la Super Coupe d'Europe l'autre jour.
Julien?
Ah, tu pas toi?
Ah non, c'est pas Julien Momon là.
C'était Luigi Collange.
Mais non, mais à la radio.
Ah non plus non. Ah, t'es complètement à côté de la plaque mon Fredo. Bon c'est pas grave.
Oh mais il y a tellement. RMC et la sport c'est bien trop. C'est rendu tellement important. Il y a tellement de gens. On était 4 au début quoi, donc on se connaissait tous. Maintenant c'est un truc tellement énorme que je me plante.
Braillet avec Gilbert, Samy et moi.
Tiens, on va commencer justement par l'Angleterre avec toi Julien. On donne les résultats de la deuxième journée de Premier League. Alors ça a débuté par un superbe Cardiff City Newcastle 0-0. Leicester Wolverhampton 2-0 pour Leicester. Tottenham a battu Fulham 3-1. Bournemouth a battu West Ham 2-1. Victoire sur le même résultat d'Everton face à Southampton. Chelsea Arsenal, ça c'était aussi l'un des chocs du week-end. 3-2 pour les Blues. Watford s'est imposé 3-1 à Burnley. City a cartonné face à Huddersfield 6-1. Surprise, Manchester United s'est incliné à Brighton 3-2. Et puis ce soir, dans la douleur, Liverpool a battu Crystal Palace.
C'est pas encore totalement fini, il reste quelques minutes à jouer. On est dans les arrêts de jeu là.
Donc ils vont gagner. Tu peux miser si tu veux, je te le donne. J'ai l'air d'un con. Tiens, on va passer à ton avis tranché, on va commencer par le tien. Jingle ou pas jingle, Arthur? Vas-y.
Attends. La main de Thierry Henry, c'est pas la main du diable également?
Ah ah ah! c'est du Philippe Auclair.
Il va falloir être à la hauteur.
T'es le super sub. Alors toi, ton avis tranché, il concerne Tottenham. Alors qu'il y a eu un mercato assez bizarre, parce qu'il n'y a pas eu d'arrivée, il n'y a pas eu de départ. On sait que les Anglais dépensent sans compter. C'est pas le cas de Tottenham. Et toi, pour toi, ils ont fait le bon choix.
Ouais, ben, c'est la seule équipe des 5 grands championnats européens qui n'a recruté personne cet été, Tottenham. Mais en Angleterre, c'est pas arrivé depuis que le mercato estival a été figé au début des années 2000. Et pour moi, oui, c'est une bonne idée. En tout cas, on voit sur le terrain déjà les résultats en début de saison marchent. Pourquoi c'est une bonne idée? Parce que d'abord, c'est un groupe jeune Tottenham qui grandit ensemble depuis plusieurs années sous la houlette de Mauricio Pochettino. On voit Kane, Ali, Eriksen qui progressent, qui prennent une envergure différente chaque année et supérieure chaque année. L'une des raisons aussi pour lesquelles ils ont pas recruté, c'est qu'ils ont perdu personne. D'ailleurs, Harry Kane a progressé, donc a prolongé, pardon.
Et il a progressé aussi.
Et aussi, ouais.
Et il n'y a pas eu besoin de le remplacer donc par un attaquant. Autre chose aussi, grâce à cette stabilité, ça a une vertu dans le jeu, c'est que c'est un projet de jeu de Mauricio Pochettino qui est très bien intégré par les joueurs et qui permet une flexibilité tactique. On a vu contre Fulham ce week-end, il y a que City qui est plus flexible tactiquement que Tottenham, c'est-à-dire qu'ils sont passés de 3-5-2 en 4-4-2 en losange en cours de seconde période, ça a renversé le match, ils se sont imposés 3-1. Et ça, c'est parce qu'il y a ce groupe stable, ce noyau dur depuis plusieurs années, qui a parfaitement intégré les principes de jeu de Pochettino, qui veut cette flexibilité tactique, être capable de jouer dans toutes les situations. Pochettino, c'est aussi un entraîneur enfin qui est très attaché au côté humain, à la construction d'un groupe, à la dynamique de groupe. Et on sait que c'est parfois un équilibre assez instable. Hein. Sam, t'as été dans un effectif professionnel. Tu sais que on peut vite un petit peu ébranler une dynamique positive avec une ou deux arrivées malvenues de caractère dans l'équipe. Donc Pochettino est très attaché à préserver cette dynamique de groupe. Et ça permet aussi enfin à donner leur chance à des joueurs qui mettent un peu de temps parfois à s'intégrer. On voit Lucas
ouais, Moura
qui est un symbole clé de cette stabilité qui lui permet de briller aujourd'hui. Il a mis du temps à s'imposer à Tottenham depuis son arrivée en janvier dernier. Et sur les deux premiers matchs, il est excellent. Il a été buteur ce week-end.
Tiens, petit teasing, petite parenthèse. On y reviendra avec toi, notamment Simonet, dans quelques instants. C'est maintenant officiel. Nice vient de communiquer sur son site officiel. Mario Balotelli reste à l'OGC Nice. Mario Balotelli sera niçois cette saison. Je cite le communiqué. Le club et son numéro 9 ont entériné qu'ils poursuivaient leur aventure commune en 2018. 2019, voilà d'où ce fameux gif subliminal sur Twitter. Balotelli reste donc du côté de l'OGC Nice.
Et pendant ce temps-là, Liverpool a marqué un deuxième but.
Tu vois, je te l'avais dit, fallait miser sur Liverpool.
Sadio Mané dans les arrêts de jeu.
Et voilà, donc ouais. Liverpool qui mène 2-0 face à Palace. L'avis de Julien Momon, l'avis tranché de Julien Momon qui concerne Tottenham. Vous en pensez quoi, tiens Sam? Moi, il y a un truc que je répondrais à ça, c'est ok, Tottenham, ils ont fait podium sur les trois dernières saisons. On change pas une équipe qui gagne, mais enfin, ils gagnent rien, Tottenham. Est-ce qu'il faut pas justement rajouter quelque chose pour franchir un palier supplémentaire?
Non, mais après, pour gagner, il faut du temps. Tu gagnes pas, justement. C'est ce qu'il est en train de faire. Pochettino est en train de bâtir. Et son management me fait penser un peu à Zinedine Zidane, dans le sens.
Je pense exactement la même chose.
Voilà, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il fait confiance à un groupe, voilà, et le groupe va lui le rendre. Je crois que cet effectif, au fur et à mesure, va vraiment jouer pour lui, quoi. Et c'est comme ça que tu risques, en tout cas, de gagner des titres. Après, il faut pas être pressé. Il est arrivé, tout était en construction, et on voit que depuis qu'il est là, ça a pris du temps, et l'équipe commence à vraiment donner certainement sa pleine mesure.
Construction, c'est le mot. On rappelle que le stade va être bientôt inauguré, c'est reporté d'ailleurs.
Hein, à cause des problèmes de sécurité, on se laisse un mois de plus au moins pour bien s'assurer que tout est en ordre. On parle de gagner, alors des titres en Angleterre, faut voir la concurrence aussi. Hein. C'est un Big Six avec les deux Manchester, avec Arsenal, Chelsea, Liverpool maintenant qui s'est bien armé aussi. C'est compliqué. Pochettino le disait il y a un an, sa victoire, ça avait été d'être dans le top 4. Ils sont stabilisés dans le top 4. Faut se souvenir aussi d'où vient Tottenham, hein, qui, il y a une dizaine d'années, n'était pas un habitué aussi de ses places pour la Ligue des Champions. Et oui, c'est le prochain défi, c'est vrai aussi. Harry Kane s'est fixé ça. Maintenant, c'est remporter des trophées pour Tottenham.
Mais quand même, la chose étrange, peut-être je me trompe sur une année, mais depuis que Pochettino est là, Leicester a gagné un titre. Chelsea qui revient de nulle part après Mourinho avec Conte, une équipe qui était pas la favorite, bien sûr, a gagné un titre. Et l'année suivante, quand tout allait mal, il réussit à gagner même la FA Cup. Avec trois titres qu'il y a en Angleterre, Pochettino, sur 3 ans, n'a jamais gagné. Oui. Même une petite coupe, arrivé en demi-finale, une finale peut-être.
Et le vrai regret, c'est la saison de Leicester, finalement, qui est un peu une saison.
Il lâche à la fin.
Nulle part, il lâche en fin de saison, mais il lâche même pour se faire passer devant par Arsenal avec un 5-1 humiliant à la dernière journée que Pochettino avait mis du temps à digérer à Newcastle, qui était déjà relégué. C'est vrai que c'est celle-là la saison où on pouvait dire.
C'est une concurrence folle, mais il y a quelqu'un qui est sorti de cette concurrence, parce que même Chelsea, la saison de Conte, la première, c'était difficile d'imaginer d'un vraiment jouer la première place. Oui, les top 4,
mais il y a quand même quelques petits trous dans l'effectif. Je pense notamment devant en numéro 9, si Kane se blesse, c'est qui joue, c'est Janssen et
Llorente.
Llorente, c'est pas un peu léger quand même.
Il y a Son est là aussi quand Kane se blesse.
Llorente a été proposé à au moins 7 ou 8 clubs importants.
Il y a des départs quand même. Bon, Llorente, Nkoudou.
Nkoudou est annoncé sur le départ, mais il a très peu de temps de jeu. Il était prêt à Burnley.
Jamais.
Là, Lucas, par exemple, dans ce système depuis le début de saison, joue en deuxième attaquant, c'est une option aussi.
Ouais, mais ça, il a fait un deuxième attaquant quand
voilà. Ouais, mais après, dans le système très fluide de Tottenham, c'est pas gênant parce que les buts peuvent venir aussi de Dele Alli, d'Eriksen qui se projette. Ça rejoint un petit peu cette idée. C'est vraiment le collectif. Quand Kane n'est pas là, ils ont montré avec Son, avec les autres, qu'ils pouvaient aussi compenser.
Parce qu'encore l'Angleterre a claqué, mais a eu Adia. Beaucoup d'argent, beaucoup d'effectifs qui sont bousculés, etc. Franchement, Tottenham avait fait une saison très correcte la saison dernière, quand on voit ce qu'ils étaient capables de faire. Ouais, puis en Ligue des Champions, voilà, après, bon, ils se font avoir, mais la phase de groupe, elle est quand même très bien, ils terminent premier d'ailleurs devant le Real, hein. Et le fait de conserver un groupe, je me demande si finalement, en Angleterre aujourd'hui, où c'est tout le temps, et même le marché de janvier, il est devenu un marché important. Le fait de garder son effectif, c'est pas finalement la meilleure idée pour se différencier des autres.
Oui, mais ça, Fred, quand tu parles de ça et que tu prends par exemple l'exemple du Real et Zidane, c'était une équipe qui gagnait des titres. Tottenham, pour l'instant, n'a jamais rien gagné. L'écart entre Tottenham et les autres prétendants au titre est quand même assez important.
Mais parce que je pense que Tottenham n'aura jamais autant d'argent que les autres. Donc ils pourront pas avoir de joueurs.
Le stade peut leur permettre de combler un peu cet écart.
Voilà, mais je pense qu'ils peuvent, eux, de par cette différenciation dans la gestion du groupe, être plus forts que les autres, parce qu'ils pourront pas avoir d'aussi bons joueurs ou des meilleurs joueurs que Manchester United que City. Voilà, ça c'est pas possible.
Bah après il y a des postes où franchement Fredo ils font concurrence.
C'est aussi lié à la personnalité du propriétaire, hein, Daniel Levy, qui est...
Oui. Assez, ils pourront pas avoir une grande star internationale, à part Ken, il est là, mais ils pourront pas avoir, aller chercher un Neymar ou un Mbappé, vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Donc finalement, avec ce qu'ils ont, voilà, ils veulent comme tout le monde a de l'argent et tout le monde dépense, eh ben, ils ont essayé d'être un peu différents.
Tu veux dire que leur recrue, c'est les joueurs qui gardent finalement?
Ben, c'est ça, voilà, c'est-à-dire que ça sert, de toute façon, tout le monde dépense. Donc tu vas pas faire mieux en dépensant toi comme les autres.
Et c'est presque un contre-modèle finalement qui donne envie de
exactement
le voir réussir finalement quand on voit la
place
le
dépenser. Et l'assurance pour garder les joueurs, c'est Pochettino, parce que si Pochettino partait, je pense que quelqu'un aurait préféré regarder ailleurs.
Et d'ailleurs, la stabilité dont tu parles, c'est surtout celle-là, parce qu'il a été dragué par le Real Madrid, hein, Fred,
pas qu'un peu. C'était le candidat numéro un pour succéder à Zidane, hein.
Ouais.
Sauf que, il y a eu, pour résumer, et là on est sur l'Angleterre, c'est-à-dire que Daniel Levy est un immense président, mais il est encore plus dur. Il est encore plus immense quand il négocie. Et au Real, on s'est dit, ça va prendre 2 mois. Voilà. Il y a une question qui était posée. Lévy a dit, ah non, mais il faudrait payer, je lui avais demandé 200 millions et tout ça. En disant, ça peut être possible, sauf que ça va prendre trop de temps et que le Real a besoin de vite trouver un entraîneur. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle le Real a abandonné au bout de 2 jours.
On rappelle quand même, hein, que Tottenham, c'était les derniers clubs de Modric et de Bale avant qu'ils aillent au Real, hein, justement.
Donc Florentino Pérez sait comment négocie Daniel Levy.
C'était l'époque où Tottenham n'était pas capable de garder ses joueurs financièrement, alors que maintenant, alors certes, ils dépensent pas sur les marchés des transferts, mais ils offrent des prolongations de contrats assez avantageuses. Kane a signé une prolongation qu'il met au niveau des plus gros salaires de première ligue.
On rouvre presque un débat philosophique qu'on avait tout à l'heure finalement, mais c'est vrai que dans un football très business où il y a beaucoup de millions qui sont brassés, on a presque envie d'aimer celui qui fait pas ça, même s'il y a beaucoup de millions à Tottenham, hein, on va pas commencer à
c'est pas un petit idéaliser non plus exactement.
Mais c'est vrai que c'est intéressant comme modèle, ça.
Non mais moi j'aime bien, hein. Moi j'aime bien les managers effectivement qui travaillent sur du long terme avec leur effectif et essayer d'améliorer. Maintenant effectivement ça gagne peut-être pas du premier coup. Leicester, on l'a bien vu que c'était voilà, il y a souvent des équipes comme ça.
Ouais, c'est pas même
Leicester, c'était Montpellier il y a quelques années.
Voilà, exactement. Moi je préfère peut-être des équipes comme Manchester où bon ben voilà, l'entraîneur il est là. Ça fait un moment qu'il est là, qu'il travaille, qu'on le laisse travailler avec le même groupe. À un moment donné, ça doit payer, parce que ce qui est le plus important et le plus dur dans un groupe pour un entraîneur, c'est que les joueurs jouent pour toi et croient à ton projet.
Mais est-ce que la question qu'on va se poser, Julien, c'est est-ce que tu penses qu'intrinsèquement ce groupe a en lui de concurrencer Liverpool et Manchester City?
Ah oui, clairement.
City, alors il y a peut-être un petit différentiel en termes de qualité individuelle. Mais justement,
en termes de quantité et de qualité.
Mais il y a des tels principes collectifs forts qui peuvent compenser parfois aussi un petit peu ce décalage individuel. Ils ont une stabilité dans le jeu. On voit Liverpool ce soir qui donc s'est imposé 2-0 à Palace. C'était assez laborieux et on voit Naby Keita qui met un peu de temps à s'intégrer, par exemple, à s'imposer. Voilà, c'est vrai que c'est cette stabilité, ça peut être le moyen de compenser le différentiel individuel.
L'after continue dans quelques instants avec les drôles de dames. Julien Momont est là, Simone Rovera, Fred Hermel, Samuel Dubois, Jonathan Macardy, il y a Arthur Robert là-haut, là en bas, là-haut il y a François Pesanti, il est trop beau.
I love you, François Pesanti.
Nous on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'after avec vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live et via l'application Direct Studio.
RMC, le football show, l'after foot.